Une situation bien plus que catastrophique, d'après Alcide Ponga. C'est dans ce contexte que les élus du Congrès étaient réunis hier matin pour le débat d'orientation budgétaire. C'est en musique que des élèves de 6e luttent contre le harcèlement scolaire. 26 collégiens se sont lancés dans l'écriture et la réalisation d'un clip musical baptisé « Ensemble ». En métropole, le collège du Bois d'Aulne, dans les Yvelines, rebaptisé collège Samuel Paty, en l'honneur de ce professeur martyr de la République. À l'international, Donald Trump s'est adressé publiquement à Vladimir Poutine. Le président américain appelle son homologue russe à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. Sur le territoire, avis aux amoureux de la langue française, la dictée du Pacifique, c'est cet après-midi à Nouméa et à Païta. Et puis du sport avec un grand week-end pour le rugby. Le 15 de France a les cartes en main pour remporter le tournoi des 6 nations. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Week-end pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et à la une de l'actualité ce samedi, les élus du réunis en séance publique hier matin dans l'hémicycle du Congrès pour une séance consacrée au débat d'orientation budgétaire. Michael Juneski.
Il s'agissait pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de présenter aux conseillers un état des lieux de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de présenter ce que pourrait être le budget de la collectivité pour l'année 2023. En ouverture de cette séance, le président du gouvernement a pris la parole, rappelant que la situation économique du territoire était bien plus que catastrophique. La Nouvelle-Calédonie a perdu plus de 11 000 emplois, les rendements fiscaux sont en très forte baisse, le PIB s'est effondré de 18%, mais la Calédonie présente aussi un taux d'endettement qui est de 300%. Écoutez Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
C'était l'occasion pour nous pour rappeler des choses que tout le monde sait maintenant depuis presque un an, la difficulté dans laquelle les différentes institutions sont, la difficulté dans laquelle les familles calédoniennes, les agents économiques, les entreprises sont. Donc je pense que l'étape d'aujourd'hui, c'était de tracer une certaine trajectoire pour le budget de la semaine prochaine, qui sera la deuxième étape, mais c'était surtout pour se rappeler le contexte et les réalités contraintes auxquelles tout le monde doit faire face. Tout est contraint, il va falloir apprendre à faire avec ce qu'on a. Et c'est un effort collectif que tout le monde doit faire. Et ça, pour moi, c'est pas un espoir ou une espérance, c'est une obligation.
À l'issue de cette séance, les élus ont pris acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire, lors duquel il a notamment été question du prêt de 120 milliards de francs garantis par l'État. À ce propos, l'ensemble des présidents de groupe, les présidents de province et le gouvernement ont tous co-signé une lettre qui va être adressée au ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Écoutez à ce sujet Philippe Dunoyer pour le groupe Calédonie Ensemble.
Éviter qu'on nous fasse payer des intérêts immédiatement alors qu'on n'en a pas les moyens, et puis s'assurer que la ventilation de ce prêt ira au plus pressé et que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas obligée de payer des dépenses de frais entre l'AFD, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Donc cette démarche, elle est importante, elle est issue d'une résolution qu'on avait adoptée au Congrès qui nécessitait, on l'avait dit au précédent gouvernement et je l'ai redit aujourd'hui, qui nécessite qu'on soit beaucoup plus associés. C'est le cas au travers de ce courrier notamment, aux décisions susceptibles d'être prises.
C'est donc un budget forcément très contraint qui sera débattu dans quelques jours, un budget qui sera capital pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens. Pour le budget 2025, le gouvernement va proposer toute une série de mesures, une série de réformes qui devraient permettre de réduire le déficit public, de relancer l'économie et d'éviter un effondrement total de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Virginie Ruffnac, la présidente du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
C'est une trajectoire vertueuse qui nous est proposée par les membres du gouvernement et son président ce matin, avec une nouvelle pratique de contrôle de gestion de la Nouvelle-Calédonie qui est mise en place. C'est important, nous ne l'avions jamais fait ces dernières années, avec une réduction évidemment des dépenses publiques, du coût de fonctionnement. Nous devons gagner en autonomie économique en Nouvelle-Calédonie, mais pour cela, il faut que les gens reviennent, il faut recréer la confiance et surtout, il faut réinvestir et la puissance publique, si elle fait des économies sur ses dépenses, va pouvoir réinvestir pour que les chefs d'entreprise aient à nouveau des carnets de commandes remplis alors qu'ils sont aujourd'hui véritablement au bord de l'effondrement pour beaucoup d'entre eux.
Et rappelons que le budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie sera examiné le 28 mars prochain. J'ajoute que cette séance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'est ouverte par un hommage à Bernard Maran. Une minute de silence a été respectée en mémoire de l'ancien maire de Dimbéa qui avait aussi siégé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie entre 1989 et 1995.
Rue du rythme bleu, les 7h06.
L'actualité judiciaire, 15 ans de réclusion criminelle pour le jeune homme âgé de 22 ans qui avait violé et violenté une jeune femme un soir de mariage dans la tribu de Saint-Louis. Les faits remontent au mois d'octobre 2022 et après 2 jours de procès, le verdict est tombé hier soir, donc peu après 19h30. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général qui était de 13 ans de réclusion criminelle. Les faits divers avec cette opération menée par les gendarmes, c'était mercredi dernier pour démanteler un réseau de trafic de stupéfiants, Michael.
Un réseau qui passait par Internet pour proposer des stupéfiants dans le Grand Nouméa. C'est en fin d'année 2024 que la cellule cyber avait détecté un site internet dans lequel un groupe d'individus agissait. Le parquet de Nouméa avait demandé alors l'ouverture d'une enquête. Après plusieurs mois d'investigation, une opération de police judiciaire menée par une quarantaine de gendarmes de la compagnie de Nouméa, avec l'appui de l'antenne GIGN et d'une unité d'intervention de la gendarmerie mobile sous l'autorité du procureur de la République, a donc conduit à l'interpellation de 6 individus entre Nouméa et Dimbéa. Face aux éléments recueillis au cours de cette enquête, 4 revendeurs, tous majeurs, seront convoqués ultérieurement devant le tribunal. Et le couple qui administrait le site internet a été déféré ce vendredi devant le procureur dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En parallèle, le couple mis en cause a accepté l'injonction du parquet visant à la fermeture totale de leur site internet.
Traiter les auteurs, c'est aussi protéger les victimes. Des mots employés par Yves Dupas, le procureur de la République, et Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement chargé des sujets liés à la famille et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faisait hier après-midi un bilan de fonctionnement du centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales à Nouméa, un centre qui est ouvert depuis seulement quelques mois, depuis le 3 décembre dernier, et qui répond à un fléau majeur sur le territoire. Les violences intrafamiliales, donc, et plus particulièrement conjugale. Même si les chiffres sont en baisse, la situation nécessite toujours une réponse coordonnée. Depuis son ouverture, le centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales accueille 8 personnes avec un double objectif. Les explications d'Yves Dupas, le procureur de la République.
C'est de favoriser l'éviction du conjoint violent, du domicile, pour éviter à la victime la double peine. Et deuxième objectif, c'est mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, suivi psychologique ou psychiatrique, suivi par un addictologue, pour prévenir la récidive. C'est-à-dire de mener un travail médico-psychologique très important pour effectivement permettre à ces auteurs de retrouver un cadre familial respectueux vis-à-vis du conjoint et vis-à-vis de la loi également.
Et pour Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement chargé notamment des sujets liés à la famille et de l'égalité entre les femmes et les hommes, les retours sont positifs.
On commence à avoir des retours aussi assez positifs, à la fois sur la prise en charge et aussi sur la réflexion des auteurs qui finalement comprennent qu'il faut rentrer dans une démarche de prise en charge, qui comprennent aussi qu'ils peuvent perdre tout ce qui est leur vie de famille, leur vie professionnelle aussi, puisque les gens continuent à travailler et même participent aux frais de fonctionnement du centre. Donc ce qui est important pour nous, même si c'est un nombre de personnes qui est limité, c'est vraiment d'aboutir à cette prise de conscience de la gravité de leurs actes pour éviter qu'ils récidivent. Si ça vraiment porte ses fruits, soit augmenter la capacité d'accueil, soit peut-être également délocaliser le dispositif, puisqu'on sait que évidemment ça touche aussi la province Nord et la province des Îles, et on aimerait amener ces provinces également à participer à ce dispositif.
Et ce centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, basé dans le centre-ville de Nouméa, peut accueillir jusqu'à 10 personnes suite à des décisions de justice. Des élèves de 6e qui luttent contre le harcèlement scolaire en musique. L'année dernière, 26 collégiens se sont lancés dans l'écriture et la réalisation d'un clip musical baptisé « Ensemble ». Les paroles du titre, chantées par les jeunes, abordent l'isolement, les moqueries, la souffrance, en bref, le harcèlement qu'ils peuvent subir certains de leurs camarades à l'école. Hier, le vice-recteur Didier Vindatich est allé leur rendre à ces collégiens pour récompenser leur engagement, l'occasion pour eux d'expliquer leur démarche.
Déjà au début de l'année, avant les événements, on a travaillé sur les paroles du clip et on a choisi la bande son. Au début, notre prof, elle avait donné des mots. Et comme on n'a pas trop aimé, ben on a changé, on avait fait un groupe, on a fait un vote pour la meilleure parole.
Ben, le harcèlement scolaire, c'est quelqu'un qui se fait embêter par une ou plusieurs personnes en répétition.
C'est important de ne pas harceler parce qu'après, ça peut emmener à des élèves qui ne viennent plus à l'école, qui puissent se faire, par exemple, des bêtises.
C'est toujours présent dans certains collèges de toute la Nouvelle-Calédonie, en métropole et partout dans le monde.
Vraiment, on est hyper contents du travail qui est ressorti à la fin. On ne pensait pas que ça allait rendre aussi bien.
Bien sûr, ça ne sera jamais parfait, mais sinon, c'était super, j'ai trop bien aimé.
Oui, je suis très contente, surtout qu'on avait l'une des meilleures profs d'histoire. C'est la meilleure prof que j'ai eue, elle a été très gentille avec nous.
Merci Madame Barbonceau.
Et vous l'avez compris donc, le projet a été piloté par la professeure d'enseignement moral et civique des collégiens Nathalie Barbonceau, qui est également professeure d'histoire géo.
Je le fais depuis plusieurs années, je pratique ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Et le thème du harcèlement est un thème qui fait partie du programme que l'on doit enseigner en EMC. Et donc j'ai voulu réaliser un projet plutôt artistique pour que les élèves se sentent vraiment acteurs et puis qu'il y ait un vrai message dans ce projet. En tant qu'enseignante, là, je leur ai dit, j'aimerais qu'on écrive une chanson ensemble, qu'on réalise un clip musical. À partir de là, je laisse les idées prendre. Et le principal, c'est que ce soit les élèves qui soient vraiment les créateurs de leur projet. Donc, les idées arrivent et on en parle, on en discute. Et les choses se font un petit peu naturellement, je dirais.
Un magazine citoyen était justement consacré à cette thématique du harcèlement scolaire sur nos ondes, disponible bien évidemment en podcast et en vidéo sur notre site rrb.nc. Notez également ce numéro gratuit et anonyme de soutien SOS Écoute au 05 30 30, le 05 30 30. Vos rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu, 10 mois après le 13 mai, Sonia Lagarde se dit meurtrie par ce qui s'est passé, mais elle déclare que maintenant il faut repartir et reconstruire. Le maire de Nouméa était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle est revenue sur la situation de la commune 10 mois après le 13 mai 2024 et également sur la préparation du budget 2025. Elle a aussi été interrogée sur les discussions concernant l'avenir institutionnel et sur le rôle des maires. Une interview de Sonia Lagarde qui sera rediffusée dans son intégralité demain soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible en audio et en vidéo sur notre site internet. Ce matin, nous vous proposons à partir de 11h la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, le bilan de la délinquance 2024, la stratégie de l'État pour y faire face, mais aussi l'impact des émeutes sur l'économie avec la note de l'IEOM et l'enquête réalisée par la CCI. Les consultants du club ont aussi évoqué l'Ukraine et les débats autour d'un éventuel cessez-le-feu. Un club politique que vous pouvez réécouter en podcast sur le site RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question du jour, 86% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent que 10 mois après les émeutes du 13 mai, ils craignent une recrudescence de la délinquance en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 14% à dire qu'ils ne la craignent pas. Merci pour votre participation et rendez-vous donc lundi pour une nouvelle question du jour. 7h13, une première pause dans ce journal, on reviendra juste après sur toute l'actualité nationale et internationale.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrez par le showroom Mazda.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info week-end, Léo Fichou.
L'actualité en métropole, c'était le 16 octobre 2020, l'un des attentats islamistes les plus marquants qu'ait connu la France. L'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire, sauvagement tué par un Tchétchène radicalisé à la sortie de l'établissement où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, c'est dans les Yvelines. Ce vendredi, le collège a officiellement pris le nom de ce martyr de la République à l'issue d'une cérémonie riche en émotions. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Dans le vaste hall de l'établissement, une soixantaine d'élèves, le visage grave, assis à côté de leur sac à dos. Ces jeunes qui n'ont jamais vu Samuel Paty ont conscience de vivre un tournant dans la vie du collège. La mairie de Conflans-Sainte-Honorine souhaitait attendre que les collégiens aient connu le professeur d'histoire-géographie et quitté l'établissement pour le rebaptiser. Au pupitre, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a rappelé que la République ne céderait jamais face au terrorisme.
Aujourd'hui, son collège devient le collège Samuel Paty. C'est le symbole d'une promesse. La promesse que ni l'oubli, ni la peur, ni la violence ne l'emporteront.
Des enseignants se sont ensuite relayés pour lire un texte poignant afin de rendre hommage à leurs collègues sauvagement assassinés.
Après le bois d'aune, Samuel Paty, c'est donc le nom de la vie qui continue malgré la mort, au-delà de la mort. C'est le nom de notre collègue dont le souvenir restera toujours en nous. C'est le nom de la transmission à la jeunesse, de l'espoir envers les générations futures.
C'est la sœur de Samuel Paty qui a dévoilé la plaque portant le nom de son frère. Gaël Paty souhaite que la mémoire de son frère soit honorée au travers de nombreux projets éducatifs.
Maintenant que le procès est passé, maintenant que ce collège porte symboliquement le nom de Samuel, je pense que maintenant il faut qu'on s'attelle collectivement à en faire quelque chose en fait. Concrètement, pour les jeunes, pour la jeunesse, pour que ces valeurs qui tenaient tant à Samuel vivent.
Pour clore cette cérémonie, une chorale de collégiens a interprété une chanson de Jean-Jacques Goldman dont les paroles rappellent le rôle essentiel qu'avait Samuel Paty au collège.
Cyril de la Morinerie au collège du Bois d'Aulne, rebaptisé donc collège Samuel Paty pour Europe 1. Nous tenons à la laïcité. Bruno Retailleau redit ce vendredi son hostilité au port du voile dans les compétitions sportives et prend ses distances avec sa collègue des sports. Le ministre de l'Intérieur en phase avec l'opinion. 73% des Français sont pour l'interdiction du voile dans les sports selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Bruno Retailleau toujours engagé dans un bras de fer diplomatique avec l'Algérie. Nouvel épisode, une liste de plusieurs dizaines de ressortissants algérien présent en France et considéré comme particulièrement dangereux vient d'être envoyé à l'Algérie en vue de leur expulsion. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une épreuve de vérité. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Sur cette liste, les noms d'une soixantaine de ressortissants algériens présentant les profils les plus inquiétants pour la sécurité du territoire français. Si Alger ne fait pas preuve de bonne volonté et continue de s'opposer à leurs expulsions, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet d'aller plus loin dans le rapport de force.
Cette liste, ce sera un moment de vérité. Bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, d'une riposte graduée qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords.
Concrètement, selon les informations d'Europe 1, les réponses les plus dures envisagées sont de trois ordres. D'abord, dénoncer les accords de sécurité sociale qui permettent aux Algériens de se faire soigner en France et ouvrir un contentieux sur les dettes hospitalières. Ensuite, sur le plan migratoire, dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite notamment le regroupement familial. Enfin, Paris pourrait aussi ralentir les procédures d'indemnisation des conséquences des essais nucléaires.
Arthur Delaborde pour Europe 1. L'actualité internationale encore très riche avec toujours ce projet de cessez-le-feu en Ukraine, une trêve des combats de 30 jours déjà approuvée par Kiev. La Russie de son côté temporise et les négociations se déroulent désormais entre Moscou et Washington. Donald Trump s'est adressé publiquement à Vladimir Poutine. Écoutez Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, le président américain l'appelle à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens qu'il décrit comme complètement encerclés par l'armée russe. Donald Trump évoque ici la situation dans la région russe de Koursk où les Ukrainiens ne cessent de se replier face aux forces russes qui mènent une contre-offensive depuis une semaine. Même Volodymyr Zelensky décrit aujourd'hui une situation très difficile, même si Kiev réfute tout encerclement. Pour l'instant, Vladimir Poutine s'est exprimé tout à l'heure en réponse à Donald Trump sur ce point.
Nous comprenons l'appel du président Trump pour que ces soldats soient traités avec des considérations humanitaires. À cet égard, je souligne que s'ils déposent les armes et se rendent, on leur garantira la vie et un traitement digne conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie.
Le président américain s'est aussi félicité de discussions très fructueuses avec Vladimir Poutine, comprendre celles menées hier à Moscou entre le chef du Kremlin et Steve Witkoff, l'émissaire de la Maison-Blanche, sur les dossiers internationaux sensibles. Le président russe a décliné ses conditions pour tout projet de cessez-le-feu et c'est bien lui qui semble en position de force et temporise autant qu'il peut. Le message est clair, négocier avant d'accepter toute trêve, alors que Donald Trump, lui, espérait pousser la Russie à dire oui et à négocier ensuite. Alors, ce dernier promet d'accentuer la pression sur Moscou. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a une nouvelle fois demandé des concessions à la Russie. Quant à Volodymyr Zelensky, le ton est dur. Poutine, dit-il, veut saboter la diplomatie sur la trêve en posant des conditions inacceptables dès le début.
Et puis ces dernières heures, sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine à accepter le cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis et l'Ukraine. 7h21, on se retrouve dans quelques instants, on marque une dernière pause et la suite, ce sera la culture et les sports sur Radio Rythme Bleu.
Jusqu'au vendredi 4 avril, Tradition Thaïlande vous invite à jouer pour tenter de gagner une carte VIP pour vous offrir des heures de bien-être et de détente. Un cadeau exceptionnel d'une valeur de 150 000 francs. Pour participer, c'est simple. Envoyez « chance » au 40-20 dès maintenant. Plongez dans l'authenticité thaïlandaise au Faubourg Blanchot avec une sélection de 16 massages allant de 20 minutes à 2h30. Un moment unique de détente vous attend chez Tradition Thaïlande. Réservation en ligne, bon cadeau. Tradition Thaïlande vous accueille au 11 route du Port des Pointes et sur Facebook. Téléphone 43 04 20. Alors, pour tenter de gagner des heures de bien-être, envoyez « chance » au 40-20. Tirage au sort le vendredi 4 avril à 14h. 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léo Fichou.
Et différentes activités seront au programme de la journée. On commence avec un vide-grenier proposé en ce moment même au stade de Sainte-Marie, un événement organisé par le foyer des personnes âgées de NGA. L'occasion de chiner et de pourquoi pas trouver votre bonheur à petit prix. Rendez-vous jusqu'à midi au stade de Sainte-Marie. Pour les amateurs d'art, c'est le centre culturel Tibaou qui ouvre ses portes aujourd'hui, Mickaël.
Oui, les visiteurs sont attendus dès 9h. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le centre à travers différentes animations et activités proposées, parmi elles des ateliers de dessin, des visites guidées, des spectacles de danse et bien d'autres. Les précisions de Richard Urbain, il est adjoint au chef du département des publics et du développement culturel au centre Tibaou.
Une programmation riche toute la journée avec des rencontres avec des artistes, de l'animation musicale, de l'animation dansée par différents groupes du territoire qui sont pour la plupart déjà connus de notre public calédonien. La participation, bien sûr, de nos établissements publics culturels comme l'Académie des Lancanac, la Bibliothèque d'Ernem, entre autres. Nous avons l'opportunité de les avoir, bien sûr, cette journée-là avec nous. Et puis, bien sûr, un village des enfants pour consacrer un petit peu nos activités dédiées à toute la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie en l'occurrence.
Le centre culturel Tibaou qui est ouvert toute la journée pour des portes ouvertes et puis également pour les amoureux, Mickaël, de la langue française, un rendez-vous à ne pas manquer, la dictée du Pacifique qui sera proposée cet après-midi à Nouméa et à Païta.
Oui, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie qui commence et qui dure jusqu'au 22 mars. Alors comme chaque année, une grande dictée est organisée par l'Alliance Champlain. L'événement est ouvert à tous à partir de 13 ans. On écoute les précisions de Daniel Mirou, le président de l'Alliance Champlain.
C'est un texte d'un auteur local, en l'occurrence c'est d'une autrice. L'année dernière on a eu Roland Ronsereau qui était donc l'élément moteur de cette dictée. Et cette année on a choisi donc une autrice qui est poète, qui est conteuse et qui, j'espère, donc ravira les participants par sa dictée, qui n'est pas très difficile d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on choisit toujours un auteur local plutôt que des dictées à la Bernard Pivot, qui sont peut-être très, très sympathiques au départ, mais qui font, je dirais, un petit peu, non seulement égarer, mais repousser un certain nombre de personnes qui seraient intéressées à l'orthographe. Donc il faut que ce soit une orthographe adaptée à tout un chacun.
La dictée du Pacifique, c'est donc cet après-midi à partir de 13h30 dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, mais aussi à la même heure dans la médiathèque municipale de Païta.
Dans un autre registre, la ville de Dombéa organise cette année encore le concours Gomanga à la médiathèque municipale.
Oui, programme de la journée des concours, bien sûr, des ateliers gratuits, mais aussi des initiations, bien d'autres activités encore. Le concours Gomanga qui sera lancé de 9h jusqu'à 16h à la médiathèque de Dombéa.
Et on finit ce tour des sorties du week-end avec la 16e édition de la Méga Rex Party. Le Rex, en espace emblématique de la culture locale, fête ses 95 ans.
Ce sera l'occasion justement de s'aventurer dans les coulisses du Rex, découvrir l'histoire du lieu. Des spectacles seront également proposés, de la danse notamment. L'entrée est gratuite pour les adhérents et à 1000 francs pour les visiteurs. Rendez-vous à partir de 18h ce soir au Rex de Nouméa.
Et après la culture, on passe maintenant au sport avec du rugby ce week-end, la dernière journée du tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Une dernière journée décisive pour le 15 de France qui affronte l'Écosse, ce sera demain matin.
Oui, les Bleus peuvent encore remporter ce tournoi 2025. Avant cette 5e et dernière journée, les tricolores sont en tête du classement. Ils devancent l'Angleterre d'un point, l'Irlande de 2 points. En cas de victoire bonifiée sur les Écossais demain, et peu importe le résultat des autres matchs, les Français seront sacrés. Le sélectionneur Fabien Galthié a procédé à 3 changements sur la feuille de match. Maxime Lucu sera titulaire au poste de demi de mêlée pour pallier, évidemment, à l'absence du capitaine Antoine Dupont, hein. On le rappelle, sorti sur blessure face à l'Irlande. C'est d'ailleurs Grégory Aldrit qui sera capitaine demain contre l'Écosse. Ce dernier rêve du titre cette année.
Le capitanat, il est anecdotique parce que je suis capitaine de cette équipe ce week-end, mais notre capitaine sur le tournoi et le capitaine du 15 de France, ça reste Antoine. J'ai un rêve en tête et j'espère qu'il se réalisera demain. Et je pense que je ne suis pas encore arrivé à mon meilleur niveau. Je pense que je peux encore progresser, je peux encore être meilleur. Enfin, j'en suis persuadé en tout cas, donc... Je continue mon petit bout de chemin et j'espère que je continuerai à progresser. Ouais.
Voilà, et puis on notera aussi le retour d'un leader, Gaël Ficou. Il sera titulaire demain matin, préféré à Nicolas Desporter. Le match France-Écosse sera à suivre dès 7h. On suivra également un peu plus tôt la nuit prochaine le match entre l'Italie et l'Irlande à partir d'1h15 du matin pour nous. Et puis la rencontre Pays de Galles-Angleterre à 3h45. Notez qu'en ce moment même, ce sont les Bleuets, les moins de 20 ans, qui jouent leur dernier match face à l'Écosse.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Du football avec le début de la 26e journée de Ligue 1, Nice reçoit la JOCR en match d'ouverture.
Les Niçois 3e du classement qui veulent tenter de rester sur le podium. Ils accueillent des Auxerrois qui sont de leur côté en 11e position dans le tableau. On joue depuis 30 minutes et le score est toujours de 0-0 entre les deux formations. Dès demain matin, Nantes accueillera Lille, Angers fera face à Monaco et Lens recevra Rennes. Je rappelle qu'il y aura une grande affiche lundi matin, le PSG recevra l'OM.
On passe tout de suite au sport mécanique et à la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Le premier Grand Prix de la saison, c'est donc ce week-end dans la région en Australie.
Melbourne, théâtre du lancement de cette nouvelle saison. Et lors des essais libres, Charles Leclerc a brillé. Le monégasque, meilleur temps au volant de sa Ferrari devant les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Lewis Hamilton s'est lui classé 5e sous ses nouvelles couleurs de la Scuderia. Côté français, ils sont désormais 3 hein, en lice dans le championnat du monde. Et le tout jeune Isaac Hadjar a fait une belle prestation en se classant 6e au volant de sa Racing Bulls. Pourtant, lui reste toujours impressionné par ses concurrents sur la piste.
Chaque fois que je vois Lewis, j'ai envie de lui serrer la pince, quoi. Tu vois, quand tu roules avec Alonso et Hamilton, tu vois, c'est comme des personnages de jeux vidéo. Tu vois, c'est pas des mecs réels. Tu les vois depuis que je suis né, je les vois à la télé. Tu vois, pour moi, c'est inaccessible. Tu vois, c'est pas des mecs de la vie de tous les jours. Et au final, 20 ans plus tard, tu te retrouves avec eux en F1. C'est de ouf.
Les autres Français engagés, Pierre Gasly et Esteban Ocon, se sont classés respectivement 15e et 19e de ces essais libres. Les qualifications seront à suivre cet après-midi. Quant au départ de ce Grand Prix d'Australie, il sera donné demain à 15h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sport mécanique toujours avec le deuxième Grand Prix de la saison de MotoGP. Cette fois, les pilotes sont en Argentine.
Et une belle surprise côté français lors des essais libres. Joan Zarco s'est classé deuxième, juste derrière l'Espagnol Marc Marquez, vainqueur lors de la première manche en Thaïlande et qui vise ce week-end sa 90e victoire en carrière. L'autre français, Fabio Quartararo, n'a réalisé que le 13e temps. La Sprint Race sera à suivre demain matin à 5h. La course lundi matin à la même heure.
L'actualité du cyclisme, c'est la suite du Paris-Nice.
La sixième étape a été remportée au sprint par le Danois Mats Pettersen. Il l'emporte devant deux Britanniques, Joshua Tarling et Samuel Watson, tandis que le Français Axel Zingle s'est classé quatrième. Le peloton arrive dans la région de Nice pour les deux dernières étapes, ce soir et demain soir. Au classement général, l'Américain Matteo Jorgensen est leader devant l'Allemand Florian Lipovits pour seulement 40 secondes de mieux. Quant au meilleur tricolore, Clément Champoussin, il est neuvième à plus de 3 minutes du maillot jaune.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Et puis sur le territoire, maintenant deux rendez-vous pour les amoureux de sport en pleine nature, Mickaël.
Sur Nouméa, d'abord la Swim Run Volvic demain matin en mode compétition haut en détente. Plusieurs parcours qui enchaînent de la course à pied, de la nage sont proposés. 39,3 km, 26,1 km et 12,5 km pour les adultes, mais aussi une Kids Race, une course pour enfants de 975 mètres. Et puis, pour ceux qui préfèrent seulement courir, rendez-vous également demain à chez Daniel Guépi à Pocreux pour le Poken Trail organisé par Challenge Organisation. Au programme, un grand raid de 17 km, 850 mètres de dénivelé positif et un petit raid 9 km et un parcours familial de 4 km.
Et puis l'actualité, c'est aussi des compétitions et des rendez-vous sportifs ce week-end sur le territoire.
Oui, du cyclisme d'abord avec le Grand Prix de la ville de Dimbéa ce samedi. Le départ sera donné à 14h du parc Fayard. L'arrivée se fera à l'ancienne auberge de Catiramona. Une longue race de 72 km, une short race de 54 km et un parcours pour les moins de 15 ans de 37 km. Et puis du basket aussi avec le challenge Benjamin au Mont d'Or et en même temps à Pointe-Boute. La grande finale se fera à Lens-Vata à la fin du mois.
Et on termine les sports avec un mot de cricket féminin pour être bien complet sur l'actualité sur le territoire. La victoire finale des Samoa hier après-midi au tournoi international de Nouméa. Les Samoanes se sont imposées 79 à 78 sur les Vanuatais et remportent donc cette première édition. Sur la troisième marche du podium, on retrouve les Fidji qui ont dominé l'équipe de France 90 à 89. C'était lors de la petite finale hier matin. À 7h32, après le sport, vous en avez l'habitude, on fait le point sur la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, ce matin, la côte ouest bénéficiera d'un temps généralement sec et passagèrement nuageux. Ailleurs, les nuages domineront et apporteront localement des averses, plus marquées aux loyautés sur le sud-est. Un coup de tonnerre n'est pas exclu vers Lifou ou Marée. Le vent d'est-sud-est à sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, voire sur le sud-ouest 20 à 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Sur le nord-ouest et aux loyautés, il sera temporairement en dessous de 15 nœuds. Cet après-midi, le ciel sera chargé en nuages et le temps souvent pluvieux. Des nuages d'orage se développeront sur la chaîne et gagneront localement les côtes, notamment sur le nord. Le vent de sud-est se renforcera et dépassera souvent les 20 nœuds avec des rafales de l'ordre de 30 nœuds. Il sera moins fort sur le nord-est, l'extrême nord et le nord des loyautés, proche de 15 nœuds. Les températures maximales seront stationnaires et se maintiendront entre 27 et 32 degrés Léo.
Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions.